Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, c'est vrai, souvent, les pasteurs, quand ils sont de visite, on dit souvent la même chose. C'est un plaisir d'être là. Je vais vous assurer que c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui. Voilà, donc c'est sûr. Je suis tellement reconnaissant parce qu'il y a des amis ici qui sont très chers pour moi, des personnes qui me soutiennent financièrement, d'autres qui prient pour moi, d'autres qui sont des anciens partenaires de basket aussi. Et je suis très, très content de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Merci aussi pour les chants qui ont été choisis, qui nous introduisent vraiment très, très bien au texte qui va faire l'objet de notre étude. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste donner quelques informations, parce que pour moi, c'est important. Parce que certains d'entre vous, certainement, vous ne me connaissez pas. En fait, donc, je m'appelle Harry Noël, je suis pasteur à Paris, dans le 20e arrondissement. Alors, Porte de Vincennes, souvent les gens connaissent pas, alors je dis à côté de Nation. Voilà, donc ça commence... Voilà, en général, Nation, ça va. Porte de Vincennes, c'est déjà un petit peu moins connu. Ou alors, des fois, je dis là où il y avait l'hypercacher. Ah, et là, d'un seul coup, on a des souvenirs qui nous reviennent en tête. Exactement. Et on a implanté une église, ça fait maintenant 4 années, et on est une petite communauté qui avons le désir d'annoncer justement ce roi merveilleux et aussi sacrificateur, celui dont nous avons besoin. Et je voudrais vous dire merci spécialement parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour mon fils, Peter Isaiah, qui a été longuement malade. Et je veux vraiment, vraiment vous regarder tous et vous dire merci. Aujourd'hui, il va très, très bien et on est vraiment reconnaissant. Et on est vraiment passé par des moments qui étaient compliqués et difficiles. Je me souviens encore du jour, c'était un samedi matin, quand on nous a dit qu'il restait 2 jours à vivre pour notre fils. C'était dur. 2 jours. 2 jours. Alors, on nous a conviés dans ce salon qu'on appelle le salon des mauvaises nouvelles, et on nous a dit, il reste 2 jours. Et je me souviendrai toujours le soir, parce que du coup, on a dit qu'on voulait donner, puisque mon fils avait un problème au niveau de son foie. Et le soir, on est parti pour faire les premiers examens, pour savoir qui, entre moi et ma femme, allait donner. Je vous le dis, moi, je voulais absolument donner, hein, ça, c'était sûr. Et je voulais justement que ma femme ne donne pas, parce que je m'étais dit, j'ai pas envie d'être en stress après, d'avoir les deux. Je préfère être celui qui est dans les vapes, qui sait pas ce qui se passe. Voilà. Mais je me souviendrai toujours que le soir, lorsqu'on a fait les examens, alors qu'on était dans un état juste catastrophique, je peux vous dire que vos prières nous ont portés à ce moment-là. Et on a vu comment le Seigneur a fait des choses extraordinaires, parce que alors que notre fils était sur le point de mourir, qu'on se disait, mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Et bien, c'est à ce moment-là qu'on a aussi appris qu'on attendait une petite fille. Et je peux vous dire que ça a été un peu les montagnes russes à ce moment-là. Mais le Seigneur nous a gardés, et vous faites partie de ceux qui nous ont soutenus dans la prière. Alors, merci pour votre soutien, merci pour vos prières, pour votre amitié, pour votre amour envers moi, envers ma femme, Elisa, et nos 2 enfants. Peter Isaiah et Emmanuela. Emmanuela, Dieu avec nous. Donc merci. Merci. Alors je vais arrêter là parce que sinon je vais commencer à pleurer et je ne suis pas là pour ça. Non, je suis là pour vous servir et je suis vraiment reconnaissant de cette opportunité qu'on m'a donnée de pouvoir servir cette communauté que j'aime vraiment beaucoup. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont nés dans les années 70. Oh là là. Ah! Merci. Ah, il y en a un là-bas au fond. Ah, il y en a. Ah, vous avez vu, ils ont mis un petit peu de temps à lever la main. Bah, désolé, maintenant vous êtes grillés. Alors moi, je suis né à la fin des années 70. Et en fait, il y a quelque chose qui me marque souvent de cette période quand j'étais enfant. Et vous allez comprendre après pourquoi j'ai cette illustration par rapport au texte. Alors vous allez trouver ça bizarre. Je me souviens où on est passé de la télé en noir et blanc à la télé en couleur. Je pense qu'il faut être né dans les années 70 pour se souvenir de ça, non? Les plus jeunes d'entre nous ici, ils disent, ça a existé ce temps-là? Oui, ça a existé. En fait, je me souviens quand mon père est arrivé avec sa télé, il nous a dit, je vais vous montrer quelque chose. Il a allumé, waouh! De la couleur! On discerne enfin les détails. Ah, ça c'est vert, j'étais persuadé que c'était rouge! Et c'était juste merveilleux. Et lorsque vous découvrez la télé en couleur, la télé en noir et blanc, ben en fait, vous n'avez plus envie de la regarder. Hein. Alors, je ne sais pas pour vous, je sais qu'il y a des adeptes du noir et blanc, mais pour la télé, en général, on a envie de la regarder en couleur. Alors aujourd'hui, on a la 4K ou la 8K, je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Mais en fait, pourquoi tout ça? Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, on commence à voir les détails. Et on commence à vraiment profiter de ce que l'on voit. Avant, on avait une image qui était, c'était ce qu'elle était. Mais là, d'un seul coup, on peut voir les détails, la beauté des couleurs. Et d'un seul coup, on est juste émerveillé et on peut pleinement rentrer dans ce qu'on est en train de voir et d'en profiter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce texte qu'on vient de lire et qui va faire l'objet de notre étude est un texte qui nous permet de passer du monochrome à la couleur, qui nous permet de mieux comprendre et de mieux savoir qui est la personne pour laquelle, en fait, on se rassemble là, maintenant. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce texte, j'espère, nous permettra à la fin de mieux appréhender, de mieux comprendre, de mieux voir qui est justement notre Seigneur et notre Sauveur, de manière à pouvoir le glorifier, l'adorer et surtout l'annoncer à ce monde qui a terriblement besoin d'entendre une vraie bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Ce texte est un des passages de l'Ancien Testament qui n'est plus cité dans le Nouveau Testament. Pourquoi? C'est ce que je viens juste de dire. Parce qu'il revêt dans ces quelques lignes des détails importants de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce texte est important pour Pierre, qui l'a cité lors de son discours dans le livre des Actes. Voilà pourquoi ce texte est important aussi pour l'auteur du livre aux Hébreux, qui garde une grosse portion pour expliquer ce texte, parce qu'il nous révèle la beauté et la profondeur du Messie Jésus. Et Dieu le Père ici nous révèle par l'intermédiaire du roi David que l'identité du Messie attendu à une portée universelle et surtout une portée éternelle. Le Messie est un roi bien meilleur que tout ce que nous connaissons et un sacrificateur bien meilleur que tout ce que nous connaissons. Il est le roi que nous avons besoin. Il est l'autorité universelle. Il est le sacrificateur dont nous avons besoin. Il est le sacrificateur éternel. Vous savez, lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique de Genève, lorsqu'on étudiait un texte, il y a une question qui m'a vraiment aidé à rentrer dans mon exégèse, à rentrer dans comment décortiquer et trouver ce qu'il y a vraiment d'important dans le texte. Et c'est une question qui est toute simple. C'est qu'est-ce qui me manquerait si je n'avais pas ce texte? C'est intéressant comme question. Qu'est-ce qui me manquerait si ce texte-là ne nous avait pas été révélé par Dieu? Ce texte nous révèle que ce n'est pas d'un roi dont nous avons besoin, mais du vrai roi. Ce n'est pas d'un sacrifice dont nous avons besoin, mais du seul vrai sacrifice complet et parfait. Et le Messie réunit en sa personne ces deux fonctions. Le Messie est le roi, le Messie est le sacrificateur dont nous avons besoin. Aucun roi ou responsable politique autre que Jésus ne peut être le vrai roi. Aucune autre religiosité ne peut nous sauver. Et ce sont là deux défis que le monde aujourd'hui a besoin d'entendre et de comprendre, mais aussi nous, en tant qu'Église, de savoir en qui réellement nous avons placé notre confiance. Notre confiance est dans un seul nom, celui de Jésus. Alors oui, que nous puissions voir Jésus comme jamais nous l'avons vu, et que nous repartions avec de la couleur et plus jamais de monochrome en pensant à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son identité, nous avons les raisons de notre joie, de notre réconfort, à condition qu'il soit notre roi et notre sacrificateur qui œuvre pour nous. Ne vous inquiétez pas, j'arrive bientôt au développement. Mais je voulais vraiment introduire en rappelant des choses qui sont importantes, parce que ce texte est important pour nous. Quelque part, c'est presque un, excusez-moi l'expression, mais c'est un « in your face » si vous aviez placé votre confiance en dehors de la personne de Jésus. Mais c'est aussi un « in your face » si vous pensez que votre religiosité vous permet d'être sauvé. Parce que c'est seulement une personne qui peut faire ces deux choses-là. Et c'est Jésus-Christ. Quand on réalise à quel point notre monde est brisé, on se rend compte qu'un homme politique, un leader politique ou un système ne peut pas régler le problème. Lorsqu'on comprend aussi quel est l'état de notre cœur, l'immensité du problème de notre cœur, on réalise que nos pratiques religieuses ne peuvent pas nous changer, ne peuvent pas nous purifier. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce roi, voilà pourquoi nous avons besoin de ce sacrificateur. Alors, qu'est-ce qui me manquerait si je n'avais pas ce texte, les versets 1 à 3, où nous allons voir cette première partie, le roi dont nous avons besoin, et ensuite le sacrificateur dont nous avons besoin. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel, étant de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Vous savez, en relisant ce passage-là, une chose m'a frappé d'une expérience personnelle avec un ami, une personne qui commence à devenir un ami. Je vais être un peu plus juste. Son nom, c'est Cyril. En fait, Cyril est un prêtre vaudou. Un prêtre vaudou, hein. Je suis sérieux. Et je l'ai rencontré dans la rue et on a commencé à discuter. Et donc, il m'a dit qu'il était prêtre vaudou. Je lui ai dit, ben, moi, je suis prêtre du Dieu vivant. Et il a rigolé comme vous êtes en train de le faire à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe beaucoup de temps à discuter. Et une des choses qui ressort tout le temps de son analyse du monde dans lequel on est, c'est que notre monde ne va pas. Et à chaque fois, il dit, si seulement on avait quelqu'un qui était assez fort pour régler le problème. Alors, me connaissant, moi je le connais. Mais en fait, ça révèle quelque chose que le monde dans lequel on est aspire d'une certaine manière à ce qu'une personne puisse enfin prendre l'autorité et être en mesure de régler le problème de notre monde qui ne va pas bien. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous connaissez un leader politique qui a réellement réglé notre problème ici? Non. Est-ce qu'il y a un système politique qui a résolu tous les problèmes? Non. Non. Nous aspirons à trouver celui qui a la véritable autorité, qui a véritablement le pouvoir de dire stop et de mettre un terme à ce monde brisé. Et là, dans ce passage-là, l'Éternel déclare quelque chose d'important. Et David, ici, est juste témoin d'une conversation entre l'Éternel et une autre personne. Je vais commencer à développer. Et une autre personne. La toute première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas n'importe qui est en train de discuter, là. C'est pas n'importe qui est en train de déclarer quelque chose. C'est le Dieu saint, le Dieu trois fois saint, celui qui est réellement au contrôle de toute chose. Et c'est lui qui mérite d'être écouté. C'est lui qui mérite d'être suivi. Aujourd'hui, on vit dans une société où finalement, si vous avez tous Twitter, vous savez que vous suivez des personnes qui sont influentes, des personnes qui sont renommées. Et on les suit à cause de ça. Et quelque part, c'est normal. Je peux comprendre. Moi, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est pendant toute la période du Covid. Je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, ici, dans cette communauté, mais lorsqu'il y avait des grandes annonces, lorsqu'on savait que c'était le Premier ministre qui allait parler, on disait, bon, c'est bon. Je regarderai le résumé sur BFM, ça va. Mais quand il y avait une annonce que c'était le Président de la République qui allait parler, là, ça devenait sérieux, on se disait, ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça vous a fait ça ou pas? Premier ministre, ça passe encore. Le président, alors là c'est sûr, je vais être devant la télé, je suis presque sûr, j'attends les sondages pour savoir si on n'a pas battu des records d'audience à ce moment-là, peut-être même qu'on a battu celui de la Coupe du Monde. Mais en fait c'est important, et c'est vrai, nous suivons des personnes qui ont de l'autorité. Mais là, dans ce texte-là, c'est l'Éternel qui déclare. Monsieur Macron n'a pas encore créé de terre, jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas en mesure non plus de créer la vie, il n'est pas en mesure de savoir le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête, il n'y en a qu'un seul qui le peut, et c'est Dieu. Et voilà pourquoi est-ce que nous l'écoutons, voilà pourquoi est-ce que nous le suivons, voilà pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui, non pas pour m'écouter moi, mais pour l'écouter lui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et dans ce passage-là, ce qu'il a à dire est juste super important. Et David est témoin et nous rapporte, inspiré par l'Esprit, ce qu'il a entendu. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel est en train de s'adresser à quelqu'un, il est en train de lui dire de s'asseoir à sa droite, poste d'honneur, en attendant que toute autorité lui soit remise. David, c'est le grand roi de la nation d'Israël, et il reconnaît dans ce passage-là, de manière furtive mais importante, la souveraineté de ce personnage, qui est donc plus grand que lui. Il est en train de parler de quelqu'un qui est plus grand que lui. Un roi où tous ses ennemis seront son marchepied, symbole de domination, et dont le règne ne sera pas seulement sur Israël. Est-ce que vous avez noté qu'il n'y a pas de limite ? Parce que son règne n'a pas de limite. Aucune limite géographique, et s'appliquera à toutes les nations du monde, et même sur ses ennemis. Quand Jésus reprend ces mots dans Matthieu 22, il est en face de pharisiens qui n'ont pas compris quelle devait être l'identité du Messie attendu pour eux. Ils ont limité à un guerrier, à un chef politique, à un homme d'influence qui pourrait rétablir la gloire passée de la nation juive. Enfin, après toutes ces décennies, ces centaines d'années d'humiliation, de domination par des peuples étrangers. Et on peut quelque part comprendre quelle était leur attente. Eux, ils se rappellent de la promesse qui avait été faite à David, que de David viendrait quelqu'un dont le règne sera éternel et qui rétablira la gloire passée d'Israël. Mais quel est le problème des pharisiens que Jésus est en train de pointer lorsqu'il cite ce passage-là ? Alors là, je vous demande de me suivre. C'est qu'en fait, les pharisiens se sont attachés à une promesse. Ils ne se sont plus attachés à Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez la différence ? Dieu avait dit quelque chose, ils étaient attachés à cette promesse. Mais dans cette promesse, quelque part, ils avaient un peu oublié la personne même de Dieu. Ils s'attachaient à quelqu'un qui allait venir, qui allait régler ce problème, mais ils avaient quelque part oublié de mettre dans l'équation que ce serait Dieu lui-même. Et nous avons besoin de nous rappeler que nous plaçons notre confiance, pas dans un petit leader, mais dans la personne même de Dieu. Et Jésus est en train de leur montrer quelle est leur erreur. Et comment est-ce qu'il le fait ? Il est en train de leur poser, il leur pose cette question qui est, effectivement, de qui doit venir le Messie ? Et leur réponse est juste, de la descendance du roi David. Alors pourquoi David, le grand roi, appelle-t-il le Messie son Seigneur ? Parce que c'est Dieu. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des enfants. Levez la main, ceux qui ont des enfants. Oui, quand même pas mal. Combien d'entre vous avez déjà appelé votre enfant Seigneur ? Pourquoi vous rigolez ? Alors, moi, jamais. J'ai une phrase avec mon fils en particulier. Alors, on parle en anglais, je lui dis, « Peter, this is my kingdom, not yours. » C'est mon royaume, pas le tien. Et en fait, c'est vrai que ce texte-là peut nous déranger, mais il révèle une réalité. Si David, le grand roi d'Israël, appelle cette personne à qui s'adresse l'Éternel et que cette personne est plus grande que lui, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule réponse. C'est que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et là, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants de ce qu'on découvre là, que ce leader qui est attendu n'est pas un petit leader, qu'il est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer, de tout ce que l'on pourrait souhaiter, c'est Dieu lui-même qui vient prendre à son compte ce que personne sur cette terre ne peut faire, prendre l'autorité qui est la sienne, la sienne. Voilà pourquoi aucun leader politique, aucun système politique, aucun chef d'armée, aucun scientifique, même M. Raoult, ne peut faire le poids devant ce Messie parce qu'il est Dieu. Donc arrêtons de penser, si seulement nous avions un bon leader, et rappelons-nous que nous avons le bon leader en la personne de Jésus-Christ. Mais voilà aussi pourquoi est-ce que je ne peux pas placer ma confiance en moi. Voilà pourquoi je ne peux pas placer ma confiance en moi. Et de reconnaître la seigneurie de Jésus dans ma vie. Pas dans certains aspects. Dans ma famille, je dis souvent qu'on a des tiroirs. On a certains tiroirs où on accepte que Dieu ait l'autorité et pas d'autres. Non, il a l'autorité sur absolument tout de ma vie. Alors oui, ce texte m'invite à comprendre que c'est de lui que j'ai besoin comme mon Seigneur et Maître sur ma vie. Notre monde brisé ne peut pas être réparé par... Notre monde brisé, pardon, ne peut être réparé que par celui qui a toute autorité sur ce monde. Et comme David, nous avons la possibilité de le témoigner autour de nous. Jamais notre confiance, notre espérance ne doit être dans un leader autre que Jésus. Voilà ce que déclare l'Éternel dans cette première déclaration. Et jamais notre confiance ne doit être dans notre pratique religieuse. Ma deuxième partie. Alors qu'est-ce que nous manquerions si nous n'avions pas ce texte que nous sommes en train de lire? Et je vais lire les versets 4 à 7. L'Éternel l'a juré, deuxième déclaration. Et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie, évidemment. Un jour, j'allais faire mes courses à Auchan, qui est juste à côté de chez moi, et pendant que je faisais mes courses, je vois un gars un peu bizarre qui me regarde bizarrement, et je me dis « Ok, d'accord », et je passe mon chemin. Je ressors et je retombe nez à nez avec lui, et il me dit « Mon gars, merci de ne pas m'avoir grillé ». Et je dis « De quoi tu me parles ?» il me montre un sac plein de trucs qu'il avait piqué. Et je fais « Mais est-ce que tu sais que c'est pas bien ?» Il fait « Ouais, mais tu sais, il me raconte une histoire, et bon, le truc, Et on commence à discuter. Et je commence à lui parler de Jésus. Je ne sais même plus comment ça a commencé, mais on a commencé à parler de Jésus. Et en fait, je me souviens de sa réaction. Il a dit « Ah non, mais moi, je n'ai pas besoin de Jésus, moi. Moi, en fait, je suis musulman. Alors, ne croyez pas que je suis en train de dire que les musulmans... En fait, ce que je vais te dire, c'est valable pour tout le monde. Okay ?» Voilà. Mais en fait, il me dit « Non, mais moi, je suis musulman. Je fais les 5 piliers. Non, moi, je sais que je suis purifié. Il n'y a pas de problème. » En fait, ton truc, ça ne m'intéresse pas parce que tu es en train de me dire que toi, tu as besoin de quelqu'un pour te purifier. Non, moi, c'est bon. Et je regarde et je lui dis, en attendant, qui est-ce qui est parti voler dans le magasin? C'est pas toi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Tu es en train de te justifier, mais en même temps, tu viens juste de sortir d'un magasin où tu viens de voler. Et comment est-ce que tu peux justifier ça? Et en fait, quelque part, cette histoire m'a rappelé quelque chose qui est important pour nous. C'est que notre pratique religieuse ne change pas notre corps. Ma pratique religieuse ne change pas mon cœur. Ma pratique religieuse ne me permet pas d'être purifié de mon péché, c'est-à-dire de mon incapacité à faire la volonté de Dieu. Et que je le veuille ou non, et que j'essaye de mettre toutes mes forces, je suis voué à nouveau à chuter. En fait, ça montre que nous avons besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous, de quelqu'un qui est plus fort que nous, de quelqu'un qui peut réellement apporter le sacrifice dont nous avons besoin, parce que moi, je suis incapable d'apporter quoi que ce soit. Même pas un petit peu. Même pas un petit peu. Et c'est tout le propos de cette deuxième partie. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler, un texte comme ça est important pour nous. Parce que qu'est-ce que les Juifs attendaient? Ils avaient placé leur confiance dans un leader qui allait venir, mais ils avaient aussi placé leur confiance dans la présence du temple. Ils avaient aussi placé leur confiance dans le sacrificateur qui apportait une fois par an des sacrifices pour leurs péchés. Et leur confiance était dans ces pratiques-là. Mais ils n'avaient pas compris le fait que les sacrificateurs avaient besoin de se sacrifier eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas parfaits. Il y avait déjà un petit problème. Une fois par an, ça veut dire que chaque année, année après année, sans cesse, il fallait recommencer. Et au lieu de mettre leur orgueil dans ces sacrifices, ils auraient dû crier « Seigneur, amène le vrai sacrifice une bonne fois pour toutes ». Parce que chaque année, cela nous rappelle quel est l'état de notre cœur et de notre besoin d'être purifié. Et nous en avons marre. Nous avons besoin du véritable sacrifice. Donc ce n'est pas notre pratique religieuse, ce n'est pas le temple non plus, ce n'est pas un sacrificateur, je suis désolé Philippe, ce n'est pas toi non plus, ce n'est pas moi non plus. Mais nous avons besoin d'un véritable sacrifice, un sacrificateur réellement bon, réellement parfait, réellement saint, qui est capable d'apporter enfin ce dont nous avons besoin, un sacrifice définitif qui plaît à Dieu. Et qui répond à notre besoin à notre besoin d'être pardonné. Et c'est là que Melchisédek arrive. Alors, si j'étais dans mon église, je ferais un topo sur Melchisédek et je prendrais une demi-heure de plus, mais je vous fais grâce de ça. Melchisédek, qui veut dire roi de justice, arrive dans notre texte. Il est le roi de Salem, Salem qui veut dire la ville de la paix, l'ancien nom de Jérusalem. Il est donc le roi de justice qui règne sur la ville de la paix et il est dépeint dans Genèse 14. Amusez-vous à regarder ce texte. Il est prêtre du Dieu très haut, il règne et il est sacrificateur. Il est à la fois la figure politique et il est aussi une figure religieuse. Et voilà ce que le texte aux Hébreux nous dit de la personne de Melchisédek. Et Dieu, dans ce passage-là, est en train de dire qu'à ce personnage, à qui il est en train de parler, à qui il est en train de déclarer quelque chose, et aussi donc à nous, il lui a d'abord dit, c'est toi qui vas régner, c'est toi qui as toute autorité. Et maintenant, il dit, je ne vais pas me désister, mais tu vas être prêtre à la manière de Melchisédek. Melchisédek, un prêtre différent de tous les autres prêtres. Il n'est pas de la lignée d'Aaron. Il n'est pas d'une lignée humaine. Et Hébreux 7 nous donne justement les attributs de ce prêtre dont nous avons besoin. Aucun parent. Pas de généalogie. On ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Et donc cela le rend semblable au Fils de Dieu. Hébreux 7. En d'autres termes, en d'autres mots, il est Dieu. Il est prêtre pour toujours. Pas pour quelques années, mais pour toujours. Voilà le prêtre que l'Éternel est en train de nous annoncer ici. Il est le prêtre dont nous avons besoin, saint, innocent, indemne de tout péché, pas comme ceux de la lignée d'Aaron qui avaient besoin de se purifier eux-mêmes pour pouvoir après offrir des sacrifices à l'Éternel. Et ils avaient besoin d'être vraiment purifiés parce que si ce n'était pas le cas, c'était la mort. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés, car il n'en a pas. Et son sacrifice est pleinement suffisant, car il s'est offert lui-même. Voilà l'identité du Melchisédek dont nous avons besoin. Voilà un meilleur espoir pour régler le problème du péché. Voilà un meilleur espoir pour enfin nous dire, oui, le salaire du péché est la mort, mais Christ, Melchisédek, le Melchisédek attendu dans son sacrifice parfait a donné sa vie une fois pour toutes, pour tous ceux qui le reconnaissent comme roi de justice et tous ceux qui le reconnaissent comme le seul roi pouvant apporter la paix avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce sacrificateur-là, celui qui peut réellement apporter ce dont nous avons besoin pour enfin avoir la paix avec Dieu. Alors ce n'est pas d'un petit roi dont nous avons besoin, mais du seul vrai roi qui a toute l'autorité. Ce n'est pas d'un petit sacrificateur dont nous avons besoin, mais du vrai grand sacrificateur, capable d'amener une fois pour toutes le sacrifice parfait pour nos péchés. C'est en Christ que l'on doit placer notre confiance, et c'est vers lui que nous devons courir. Alors peut-être que vous remarquerez qu'il y a deux parties du passage que j'ai omis volontairement. Pourquoi est-ce que ce passage est important? Parce qu'il, comme je le disais tout à l'heure, c'est un « in your face » pour nous, pour toute prétention à pouvoir nous en sortir par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais ce texte-là nous conduit à voir la grâce de Dieu qui nous donne Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise que finalement, il aurait très bien pu dire « Oh, moi, les êtres humains, finalement, j'en ai un petit peu marre. Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Non, bah écoute, je ferme la porte, c'est terminé. Au revoir, ciao, bon dimanche. » Mais est-ce qu'on réalise la grâce de Dieu qui nous emmène, qui nous envoie ce roi et qui nous envoie ce sacrificateur pour nous, parce que dans cette pièce, personne n'est capable de dire qu'il le mérite. Mais dans sa grâce, Dieu pourvoit à ce dont nous avons besoin. Et pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur, Pour moi, les deux sont indissociables dans la personne de Jésus. Ils deviennent son peuple, ils deviennent les siens qui viennent à lui dans la joie. Alors dans la version second 21, on voit pas forcément, on voit ils viennent à Dieu avec ardeur. Dans d'autres traductions, on voit qu'ils viennent à lui avec joie. Le peuple de Jésus-Christ n'est pas un peuple de mercenaires. Ils n'ont plus rien à gagner parce qu'ils ont déjà tout gagné. Parce que leur victoire, parce que leur récompense est la personne même de Jésus. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils viennent à lui avec joie et avec ardeur pour le servir. Pour le servir. Et cela fait écho à ce passage. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissez, d'Éphésiens, chapitre 2, 8 à 10. Je précise bien 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Afin que personne ne puisse se vanter, car en réalité c'est lui qui nous a fait. Pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le monde dans lequel nous sommes croit que c'est en faisant des bonnes œuvres, des béats, que nous allons pouvoir enfin être réconciliés avec Dieu. Ils n'ont rien compris. Non, c'est une grâce qui vient de Dieu. Et c'est parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons compris cette grâce qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu, que nous avons compris le poids de nos péchés et le poids de la grâce de Dieu, qu'enfin nous pouvons le servir avec joie. Parce que nous avons tout gagné. Ce n'est que la conséquence de ce que nous avons découvert en la personne de Jésus. Alors arrêtons de croire que nous pouvons gagner ce salut alors qu'il nous est offert. Et voilà ce que comprennent ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui le suivent. C'est avec joie qu'ils le suivent et qu'ils le servent. Et je peux vous assurer que c'est un bien meilleur moteur que d'essayer de gagner ce que nous ne pouvons pas gagner. Alors pour ceux qui sont en Christ, c'est la joie d'être avec lui et de savoir qu'il est réellement notre Seigneur et notre Sauveur. Mais il y a aussi un autre pan. C'est ceux qui le refusent. Vous savez, mon ami prêtre vaudou, en fait, c'est quelqu'un qui fait énormément de sacrifices. Alors, je vais vous dire la vérité, je ne lui demande pas la teneur des sacrifices qu'il fait. Alors, est-ce que c'est des poulets ou ce genre de choses? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me parle toujours des choses qu'il peut faire. Et je lui dis, mais arrête, c'est Christ qui a tout fait pour toi. Et aujourd'hui, il continue à refuser. Il veut pouvoir faire par lui-même. Et j'ai discuté avec lui il y a à peu près 10 jours, et il n'est pas dans un très très bon état. Et quelque part, j'ai envie de dire, merci Seigneur. Parce que si le Seigneur doit utiliser ça pour l'amener à lui, eh bien, amen. Mais la réalité, c'est que lorsque j'ai discuté avec lui, je lui dis, mais est-ce que tu sais ce qui t'attend? Il m'a dit, mais qu'est-ce qui m'attend, Harry? Je lui dis, qu'est-ce que tu penses qui va passer si j'ai raison? Que Christ est vraiment le Seigneur et le Sauveur dont tu as besoin et qu'il a donné sa vie sur la croix pour des personnes comme toi et que tu continues à refuser. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passera lorsqu'il va revenir? Quand tu seras en face de lui, que tu pourras lui dire, je t'ai refusé. Je ne t'ai pas accepté. J'essaie de faire par mes propres forces et je ne veux pas de toi. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer lorsque tu réaliseras que c'est lui qui est réellement le roi, que c'est lui qui a réellement l'autorité, que c'est lui celui dont tu avais besoin mais que tu as préféré autre chose? Il a baissé la tête. Et je pense que ce qu'il a compris à ce moment-là est encore très très loin de la réalité. Parce que ce texte nous dit ce qui va se passer. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Ce ne sera pas une petite tape sur les doigts, mais ce sera un moment de grand regret et de grande tristesse. Et à ce moment-là, on a pu lire un passage, Ésaïe 53. Et les larmes lui sont montées aux yeux au moment où on a lu que celui qui a attendu va se sacrifier. Et je crois que quelque part, ça a fait un écho dans son cœur à lui qui fait des sacrifices, mais qui n'arrive à rien, et de réaliser que quelqu'un a fait le sacrifice dont il a besoin. Et ma prière, c'est qu'il puisse découvrir Jésus. Qu'il puisse découvrir Jésus et enfin être libéré du poids de ses fautes. Et au lieu de se joindre aux cadavres, de se joindre à ceux qui viendront à Christ avec joie, avec ardeur, avec reconnaissance pour l'éternité. Alors si nous n'avions pas ce texte, alors nous n'aurions pas la joie de savoir qu'il y a une solution au monde brisé. Si nous n'avions pas ce texte, nous ne pourrions pas savoir qu'il y a une solution à notre problème de cœur. Si nous n'avions pas ce texte, nous ne verrions pas peut-être toute la beauté de Jésus-Christ. Si nous n'avions pas ce texte, peut-être que nous serions encore dans le monochrome plutôt que d'apprécier la couleur, la beauté de notre Seigneur Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un fait le poids devant lui ? Non, personne. Personne ne peut être le sacrificateur comme lui. Personne ne peut être le roi régnant comme lui. Pour terminer, je voudrais juste parler d'un livre qui m'a beaucoup interpellé. J'espère que ce sera un encouragement pour nous, à nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur lui. C'est un livre écrit par Rosaria Butterfield. Et, alors, c'est pas traduit en français, mais le texte c'est « The Gospel Come with a House Key ». En fait, c'est un livre sur qui nous encourage à l'accueil de tous, de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont dans des difficultés. Et le livre est vraiment très intéressant. Alors, je crois qu'il y en a qui le connaissent, c'est ça ? Non, pas du tout. Ah, désolé. Ah bah écoute, voilà, parfait. Donc livre de chevet peut-être à lire. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette femme, c'est qu'elle était professeure d'université, je crois que c'était à Syracuse University, donc une université très connue. Et cette femme était lesbienne, et en plus, elle était vraiment dans les mouvements homosexuels, et c'était une figure connue et reconnue. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette femme, c'est qu'à un moment donné, elle a voulu écrire une thèse, justement, et dans sa thèse, il y avait un lien avec le christianisme. Et elle s'est dit, je veux être honnête, puisque je vais faire une thèse, et je veux vraiment faire quelque chose de carré, parce que je veux pas qu'ensuite on vienne me voir et qu'on me casse. Et en fait, elle s'est dit, il faut que je trouve des chrétiens. Et elle a rencontré un couple pastoral, et en fait, ils ont eu la bonne idée de l'accueillir. Ils ont passé des semaines, pour ne pas dire des mois, à l'accueillir, les études bibliques et ce genre de choses. Et elle est venue au Seigneur. Merci Seigneur. Mais attendez, c'est pas la fin de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une vie extraordinaire, transformée, pétrie par l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de son livre, en fait, elle montre à quel point sa famille était déçue de son choix. Mais comment ça, toi, quelqu'un d'intelligent, tu places ta confiance en Jésus-Christ ? C'est quoi cette blague ? Et au moment où sa mère était sur le point de mourir, en fait, sa mère lui a dit quelque chose de très, très dur. Elle a dit, je ne peux pas croire dans ton Dieu, parce que je vois à quel point tu es faible. Et Rosaria Butterfield dit quelque chose de très juste. Elle dit que sa mère avait raison, que c'était justement la raison pour laquelle elle avait décidé de placer sa confiance en Jésus-Christ. Parce que c'était dans sa faiblesse qu'elle a pu le rencontrer et qu'elle avait compris que c'était de lui dont elle avait besoin. Et c'est ce que nous avons besoin de nous rappeler sans cesse. Nous sommes faibles, mais nous avons un roi et un sacrificateur qui, lui, est réellement puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques jours avant qu'elle meure, cette femme a dit à sa fille, « Moi aussi, je crois que je deviens faible. » Et elle a accepté Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer dans ta parole. On aimerait étudier des textes comme celui-là pendant des jours, et d'être émerveillé, Seigneur, par la personne de ton Fils. Leur merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour cette gloire de Jésus-Christ que nous avons rencontré, que nous avons découvert. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux alors que nous étions loin de toi. Merci parce qu'en lui, nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin. Mais nous voulons aussi te prier et te demander, Seigneur, que cette grâce, Seigneur, qui est à notre bénéfice et que nous avons découvert, qu'elle puisse s'étendre aussi à ceux qui croient qu'ils sont forts, mais au contraire, qu'ils puissent découvrir leur faiblesse. Et comprendre qu'il n'y a qu'un seul nom dans lequel ils peuvent placer leur confiance, et c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est justement dans son nom que nous te prions, c'est dans son nom que nous nous rassemblons, c'est dans son nom que nous te glorifions. Amen.